Le podcast Engager les patients en action vous fait découvrir ces personnes qui, après ou pendant une maladie, créent de vrais beaux projets, comme des groupes de parole, des associations ou encore des start-up. Au travers de mon histoire et de ma maladie, vous allez partir à la rencontre de celles et ceux que l'on appelle patients experts, patients partenaires ou tout simplement patients engagés et qui font bouger les lignes. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Podcast réalisé par Amgen et l'association Aider à aider.
C'est vraiment une aventure incroyable, une relation humaine comme jamais, qui nous rapproche énormément et j'ai vraiment l'impression qu'elle dépose une sorte de testament en fait. C'est comme quelque chose de très précieux qu'elles n'ont jamais abordé avec quiconque et qu'elles se sentent fières de participer à ce travail de recherche qui va permettre de faire avancer les choses et de briser les tabous et de faire comprendre les difficultés qu'elles vivent. Voilà.
Épisode 8, aider les autres, est-ce s'aider soi-même ? Salut à tous, c'est à nouveau moi, Damien Dubois. Dans cette nouvelle saison, je veux aller encore plus loin. Mon désir est de plonger au cœur de ce qui motive et anime les patients que je rencontre dans leur combat quotidien. Je souhaite mettre en lumière non seulement leurs défis personnels, mais aussi la manière dont ils influencent et inspirent les autres. En d'autres mots, comprendre l'impact de leur engagement. Après avoir vu une interview vidéo de Colette Casimir, je m'interroge. Comment une femme ayant affronté le cancer à 3 reprises peut-elle dégager autant d'énergie et de passion pour défendre la cause des autres patientes ? Ancienne cadre dirigeante avec 30 ans d'expérience dans l'informatique, les télécommunications et le secteur énergétique, elle a gravi les échelons dans des domaines dominés par les hommes. Mais ce qui est encore plus inspirant, c'est sa résilience face au cancer et sa capacité à transformer une épreuve personnelle en mission pour aider les autres. Confrontée à cette maladie depuis 2004, elle n'a pas seulement survécu, elle s'est transformée. Elle est devenue patiente experte et ingénieure en éducation thérapeutique du patient, titre obtenu à l'Université des patients de la Sorbonne. Elle a également cofondé l'Union des stomisés d'Afrique francophone. Et ce n'est pas tout. Elle a lancé Team Up Care, un programme destiné à aider les personnes confrontées au cancer dès l'annonce de leur diagnostic. Mais ce n'est toujours pas tout. Son initiative qui m'impressionne le plus est baptisée Woman Sexo to Care. Colette a constaté, grâce à une thèse qu'elle réalise actuellement, que de nombreuses femmes éprouvent des difficultés dans leur vie intime après un diagnostic de cancer. Ces défis sont souvent exacerbés par le manque d'informations et le tabou entourant la sexualité féminine. Elle explique dans son interview que les professionnels de la santé ne sont souvent pas formés pour aborder ce sujet sensible et que de nombreuses femmes ne savent pas que leurs problèmes peuvent être directement liés à leur traitement. L'idée est donc de former des patientes expertes en sexologie pour aider ces femmes à parler ouvertement de leurs problèmes et les orienter vers des spécialistes. C'est un profil plus que parfait pour mon enquête. Je lui envoie donc un email et à ma grande surprise, elle accepte rapidement de se libérer pour un rendez-vous en visio. Le jour de notre rencontre virtuelle, lorsqu'elle apparaît à l'écran, je suis immédiatement frappé par sa lumière et sa détermination. Elle commence par me parler de ses 3 cancers, insistant sur les leçons qu'elle tire de chaque situation. Colette a une manière très poétique de parler de la maladie et de raconter son histoire, ainsi que celle des autres.
Je me rappelle de cette jeune femme qui a un cancer des ovaires et qui était vraiment très effondrée par ce qu'elle vivait, très jeune femme. Et en fait, la psychologue qui gérait ce groupe de parole en aparté m'a demandé est-ce que je pourrais, en la contactant, parler à cette jeune femme parce qu'elle était vraiment désespérée, quoi. Et donc, je me rappelle que nous avons eu cette conversation via WhatsApp vidéo, donc on a pu se voir et tout. Et en fait, je lui expliquais un peu mon parcours, je lui expliquais aussi à un moment précis de mon parcours, le déclic que j'ai eu, le double avis qui a changé un peu la donne par rapport à mes traitements, la difficulté suite aux chirurgies, on peut se retrouver vraiment, vraiment par terre, mais le fait que, avec vraiment un bon entourage et puis aussi il faut y croire quoi, c'est un voyage. Je lui expliquais les étapes en fait qu'on traversait Et en fait, nous avons pu parler, mais vraiment, j'ai aussi pu identifier avec elle les difficultés qu'il y avait avec son entourage, le fait que peut-être qu'elle n'exprimait pas suffisamment à son entourage ce qu'elle vivait, en fait, son vécu, en fait. Et ce voyage, il fallait mettre les proches dans le wagon, en fait, pour pouvoir voyager à côté d'elle. Et donc, ça lui a beaucoup parlé et ça a beaucoup cheminé dans sa tête. Et c'est vrai que nous avons des échanges assez régulièrement où elle me dit que ça l'a sauvée quelque part, quoi. Ça l'a, que vraiment. Et elle est très heureuse aujourd'hui.
C'est vrai que des exemples comme ça, ça fait chaud au cœur. Parce qu'on se dit que les souffrances qu'on a eues, les moments de désarroi incroyables que l'on a pu traverser, on peut les faire muter en quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on s'engage finalement.
Eh bien, moi, je me sens chanceuse, en fait, chanceuse de la confiance que me font ces femmes, parce que ce sont vraiment des sujets d'une telle sensibilité, d'une telle intimité, c'est le cas de le dire. Et en fait, je me sens chanceuse, pourquoi ? Parce que je sens cette sororité, en fait, dans l'épreuve. Et elles le sentent également quand nous échangeons. Les choses se font naturellement. Et je pense aussi qu'elles sentent bien que je ne suis pas là pour avoir, un regard de voyeurisme, en fait. Elles comprennent vraiment mon cheminement. Elles comprennent qu'avec moi, on peut tout dire, qu'il n'y a pas de tabou et qu'il y a un vrai engagement, parce que j'ai 62 ans. Et elle découvre au cours de l'entretien à quel point c'est difficile pour moi de faire cette thèse parce que je cumule les maladies chroniques, je suis épuisée par manque d'énergie. Et donc, c'est un vrai engagement de ma part. Et donc, c'est vrai qu'elle se confie. Elles me disent des choses, des fois, qu'elles n'ont jamais dites à personne.
Colette explique comment elle s'est d'abord entièrement fiée au conseil de son médecin après son premier diagnostic. Mais comment, avec le temps, elle a aussi appris l'importance de jouer un rôle actif dans ses propres soins. Lorsqu'elle aborde le sujet de la sexualité chez les patients atteints de cancer, je sens la passion dans sa voix. Un sujet comme ça doit être dur à aborder. C'est un vrai défi. Mais je comprends surtout que son défi, c'est la gestion de sa santé, physique et mentale, au quotidien.
C'est moi-même par rapport à cette thèse, moi-même sur différents plans, moi-même par rapport à mon énergie, qui me demande d'arriver à négocier avec mon corps, mon esprit, mon âme, comme je dis, pour faire ce travail. C'est pas un problème intellectuel, c'est pas du tout ça, mais c'est un problème tout simplement d'énergie, en fait. Et puis aussi, il y a des histoires qui vous marquent. Et donc, je vois de temps en temps un psy pour évacuer aussi, voilà.
Colette espère fournir aux patientes un espace pour discuter ouvertement de leurs préoccupations, souvent passées sous silence. Intriguée, je lui demande ce qui la motive au quotidien. Elle me parle alors d'un membre de sa famille atteint d'une maladie orpheline. Ces mots me touchent. Je lui demande s'il y a des bienfaits à l'engagement.
C'est toujours positif de s'engager, quel que soit l'engagement. Et en fait, moi, je pense que beaucoup de personnes auraient tiré un bénéfice, en fait, de s'engager, parce qu'en fait, en s'engageant, on découvre aussi le parcours que l'on a traversé. On mesure beaucoup mieux les différentes étapes que l'on a franchies, et ça aide aussi à relativiser et surtout à positiver. J'aime pas trop ce terme positiver, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir des soleils, en fait, dans ce parcours qui quelquefois est quand même très sombre. Donc ça permet aussi de voir comment on peut éclairer la route d'autres patients. Et c'est hyper gratifiant, de faire en sorte que des patients ne tombent pas dans les mêmes erreurs éventuelles, dans les mêmes complications. Donc des bienfaits sont indéniables.
Les bienfaits sont indéniables, ok. Mais et elle, alors, dans tout ça ? Est-ce que cela lui fait du bien de s'engager de cette façon ? Voilà la question qui me trottait dans la tête.
En fait, moi aujourd'hui... Je me tiens, je le dis très clairement, en laisse. C'est comme ça que je me vois. Je me tiens en laisse. Colette, tiens Colette en laisse. Parce que Colette a une énergie. Bon, c'est vrai que j'ai de l'énergie quand je parle comme ça, parce que ça me touche tellement, ça me tient à cœur et tout cela. Mais dans la réalité, il m'a fallu bien me reposer avant de, voilà, de faire ce podcast. Et donc, aujourd'hui, je suis consciente, en fait. Je suis consciente de qui je suis aujourd'hui, hein, avec tout ce que j'ai traversé. Je suis consciente qu'il y a Colette esprit, Colette corps, Colette âme, et toutes les trois nous formons une équipe. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses que je voudrais faire, mais que je ne peux pas faire. Voilà. Et donc aujourd'hui, mon projet, le number one, le projet vraiment top priorité, qui est encore plus prioritaire que ma thèse elle-même, hein, c'est d'aller mieux. Et donc, je ne peux pas faire la thèse si je ne vais pas un peu mieux.
Quand on est engagé et qu'on passe son temps à aider les autres, on peut oublier de s'aider soi-même. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle arrivait à appliquer ses propres conseils et à s'entourer aussi de personnes qui la soutiennent et qui se battent avec elle.
J'ai besoin d'aide, c'est sûr, mais aujourd'hui, franchement, j'ai presque pas envie de parler des aides éventuelles que je pourrais avoir besoin. C'est vraiment aller mieux au niveau énergie. Moi, quand je vois, par exemple, mes proches, mes très proches, qui, quand même, quelque part, s'inquiètent de mon niveau d'engagement, pour parler franchement, qui me dit, j'ai promis à ma sœur chérie, en fait, mon âme sœur, là, je lui ai promis de lui dire une activité que je vais faire qui n'est pas en lien avec le cancer. Alors, je me suis dit, je vais faire un peu de danse, ça va me faire du bien et tout ça. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, même les proches, des fois, ne comprennent pas ce niveau d'engagement, comme me disent mes proches, de patauger dans la maladie, quoi. Voilà, ils voudraient m'éloigner. Ils ont l'impression que je ne suis pas dans la vie quand je suis dans mon engagement, comme ça. Pas tous, mais la plupart, d'accord? Et donc, le message que je veux faire passer à ces personnes-là, mais surtout aussi aux soignants aussi qui part du principe que cet engagement se doit d'être bénévole.
C'est un grand débat que nous avons longuement abordé dans la première saison du podcast. Vous vous souvenez ? Je m'étais alors posé la question, quel statut donner à ces patients qui, malgré tout, développent une réelle expertise ? Colette m'a apporté des éléments de réponse.
L'engagement devrait être, considéré à sa juste valeur, comme n'importe quelle autre activité, en fait, hein, activité. Certains peuvent le faire bénévolement parce que c'est leur souhait, mais je pense que ça devrait être, ça peut être un métier en fait, au sein de l'hôpital, au sein de laboratoire, au sein d'administration également, voilà. Et donc mon rêve en fait, pour que l'engagement soit vraiment reconnu, c'est qu'un jour un directeur d'hôpital soit un patient engagé, un patient expert par exemple, parce que il faut pas oublier que les patients experts, ils sont partenaires experts de leur maladie, mais ils avaient un métier avant. Si je prends mon cas à moi, mon métier c'est pas ça, c'est pas d'être patient. Mon métier, ça a été d'être ingénieur en informatique, en télécommunication, d'avoir été quatre dirigeants au plus haut niveau dans des sociétés du CAC 40. Donc, j'ai des compétences incroyables. Je veux dire, la gestion des risques m'a sauvé la vie aussi pour mon cancer. Donc, on peut très bien avoir des patients experts qui ont toutes les capacités de par leur ancien métier à diriger un hôpital et qui, en plus, ont traversé la maladie et ont cette quintessence de connaissance.
C'est vrai que parfois on oublie que les patients engagés sont avant tout des patients. Malgré leur détermination et leur engagement à faire avancer une cause ou à aider d'autres patients, ils restent avant tout des êtres humains avec leurs propres défis de santé. Ils peuvent souvent être tellement pris dans leur mission qu'ils négligent leur propre bien-être. Il est donc crucial de se rappeler qu'ils ont aussi besoin de soutien, d'écoute et de repos. Leur santé et leur bien-être doivent toujours être une priorité. Leur force réside dans cette capacité à partager leur expérience, mais ils ne peuvent le faire efficacement que s'ils sont eux-mêmes en bonne santé et bien soutenus, et peut-être aussi formés.
Mon rêve à moi, c'est qu'un jour, on passe à ce niveau-là, de façon à ce que l'engagement soit vu au plus haut niveau et soit considéré au plus haut niveau. Moi, je dirais franchement que ça dépend. Est-ce qu'il faut être formé? Moi, je trouve quand même que ça aide de prendre du recul. Prendre du recul, moi, quand je discute beaucoup avec les différentes formations, ça peut être les 40 heures, ça peut être un DU, un diplôme universitaire. Il y en a plein, il y en a plusieurs en France sur l'ensemble du territoire. C'est important quand même cette prise de recul. C'est important aussi cette réflexivité, parce que ce qui est intéressant dans ce type d'enseignement, c'est on vous fait faire un travail réflexif sur ce que vous avez vécu. Et très franchement, on ne le fait pas spontanément. Voilà, donc on vous demande de rédiger des choses qui vous concernent également, et ça vous permet vraiment de mesurer aussi le chemin parcouru, de mesurer aussi, de mettre des mots sur des compétences que vous avez acquises et dont vous n'avez même pas conscience.
Le regard d'une personne peut en dire long sur son vécu, sa détermination, sa passion, sa force intérieure ou même sa sagesse. Parfois, un simple échange de regards peut transmettre bien plus d'émotions et d'informations que de longs discours. Il y a des yeux qui rayonnent, qui captivent ou qui expriment une profondeur et une intensité qui marquent ceux qui les croisent. Ces regards peuvent être le reflet d'expériences vécues, de combats menés ou simplement de la richesse intérieure de la personne. Colette Casimir fait partie de ces personnes qui impressionnent en un regard. Et c'était un honneur de pouvoir la rencontrer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos proches et laissez-nous des avis et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée.